hôpitaux de France à créer plus de vie pour apporter plus de vie aux personnes âgées hospitalisées.
Ne pas avoir mal, ne pas s'ennuyer, aller chez le coiffeur et se sentir belle. Quand on est âgé et à l'hôpital, la différence entre la vie et la survie tient souvent à des choses simples.
Pour plus de vie à l'hôpital,
donnons à plus de vie. Envoyez vos dons à plus de vie, 13 rue Scipion, 75005 Paris ou sur plusdevie.fr.
France Inter et le studio des Champs-Élysées présentent Des fleurs pour Algernon de Daniel Caez, mise en scène par Anne Kessler, sociétaire de la Comédie Française avec Grégory Gadebois.
Elle me dit plein de choses, mais je ne l'écoute pas parce que je la regarde. Je n'arrive pas à la regarder et à l'écouter en même temps. Si j'étais moins timide, je lui dirais qu'elle a de beaux cheveux.
Retrouvez Des fleurs pour Algernon dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Et c'est l'heure de Daniel Mermet pour la Bassie, j'y suis avec Bip, son répondeur.
Sans la musique, la vie serait une erreur. Avec la musique, la vie est une vérité. Donc le son est la condition à la vie, comme le tout premier cri du nouveau-né. Entendre serait donc plus fort que voir. Vous comprenez mieux pourquoi j'aime la radio. Bisous, c'était Bavette.
Oui, bonjour, Francine de Lyon. J'appelle pour le projet de la ZAD, qui est un bocage où la biodiversité règne. C'est une zone préservée, magnifique, qui n'a pas été touchée depuis 40 ans. Autant dire qu'il y a plein d'espèces végétales et animales qui vivent en toute tranquillité. Et puis des gens aussi, des paysans, des gens qui vivent là-bas depuis des années et qui sont expulsés souvent de façon illégale par les militaires. Parce que cette zone magnifique a été choisie pour être le prochain aéroport de la ville de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, voilà. Et personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, aucune info n'est relayée sur ce massacre organisé. Et en plus, c'est une zone de marécage, donc qui est composée à 90% de zones humides. Et donc c'est un projet qui est complètement illégal parce qu'il détourne la loi sur l'eau en termes de compensation écologique. Et voilà.
Oui, bonjour Marine, enseignante en camion-école auprès des Roms migrants en vue de les scolariser en école ordinaire. Donc je voulais remercier Daniel pour son émission qui prend des reportages des gens sur le terrain. Voilà, contrairement à M6 qui fait des émissions en ce moment scandaleuses sur le gang des petits voleurs, etc., etc. Donc nous, on intervient sur place, on fait de la scolarisation avec les enfants et on peut vous dire que c'est pas du tout ce que raconte M6. Donc voilà, c'était un espèce de coup de gueule.
Bonjour à tous et à toutes. Comme à chaque nouveau président, je lui transmets les doléances des retraités nécessiteux dont je suis membre actif. Nous survivons avec des retraites qui ressemblent plus à une aumône. Je suis un privilégié, touchant 805 euros mensuels. Je viens de passer les 72 balais. Je vis en caravane sur un camping depuis 1994. L'an dernier, je me levais à 4h du matin, livré des colis. La vie en France devient un calvaire pour les vieux nécessiteux que nous sommes. C'est là la récompense républicaine envers les efforts acharnés que nous avons déployés afin d'enrichir les entreprises, le pays, plus la guerre d'Algérie. Des heures et des heures de dur labeur, plus de 200 trimestres de travail. 10 années à mon compte, 4 années d'emprisonnement pour rébellion. Désormais, je vis 6 mois au Maroc où j'y retrouve un immense bonheur, une convivialité époustouflante qui me réchauffe le cœur et une possibilité de pouvoir vivre décemment avec ma maigre retraite. Liberté, égalité, fraternité, démocratie, droits de l'homme, etc., etc. Tous ces slogans ne s'adressent pas à nous autres, les vieux nécessiteux. Nous reste notre conscience qui est la plus belle religion de ce monde. Je vous embrasse tous. Bon courage à tous.
Le formulaire. C'était une belle ingénue dont j'imaginais les méandres. Elle avait toujours sa vertu et j'envisageais de la prendre. Lorsque je la pris dans mes bras, elle me tendit un formulaire, une sorte de certificat à remplir en 3 exemplaires, une fiche de renseignements concernant ma vie affective. J'ai beau aimer des tas de gens, je hais les administratives. C'était Georges Philippe, salut.
Bonjour et bravo à toute l'équipe. Le prochain Café Repère de la Bassie, j'y suis, aura lieu à Las Vegas demain soir au Café Bar chez Germaine. Salut et fraternité.
Et ben voilà, nous voilà informés chez Germaine, donc à Las Vegas. C'est dommage que cet AMG ne nous ait pas donné les précisions sur l'adresse précise. C'est avec plaisir qu'on serait retrouvés là, en espérant un peu de fraîcheur dans cette ville étouffante, accablante, époustouflante pas tant que ça d'ailleurs, qu'est Las Vegas. C'est là où nous sommes encore aujourd'hui, et là encore on va aller dans la périphérie de cette ville, avec l'immobilier. Ça vous dit quelque chose, l'immobilier aux États-Unis? C'est la grande affaire, bien évidemment. C'est ça qui a engendré cette crise depuis de nombreuses années. C'est 2005, 2006, 2007. Mais l'explosion, ça a été 2007, avec toutes les conséquences que vous savez ou vous ne savez pas forcément. On n'arrive pas bien à mesurer les conséquences économiques, financières, etc., mais les conséquences aussi dans la vie quotidienne de millions. On considère qu'il y a 10 millions de familles qui ont été expulsées quand même aux États-Unis. Cette conséquence sociale est terrifiante, sans parler évidemment du chômage, du pouvoir d'achat, de cette guerre qui n'en finit pas en Afghanistan, etc., etc. C'est donc un drôle de climat dans lequel nous nous trouvons, dans cette étrange et suffocante ville qu'est Las Vegas. On vous avait présenté il y a exactement 4 ans une série, à peu près au même moment pour les élections précédentes, qui s'appelait « De Main Street à Wall Street », c'est-à-dire de Cleveland, Ohio, dans l'Ohio, jusqu'à Wall Street, et les beaux quartiers, les belles banlieues de New York en opposition. Et à Cleveland, on s'était intéressé de très très près à cette histoire d'évacuation, d'expulsion des maisons, ces gens qui se font virer tous les jours, et le shérif qui tous les jours monte dans sa bagnole avec ses hommes et qui vont virer des gens, qui vont vérifier qu'ils ont foutu le camp, qui va mettre des avis sur les portes des petites maisons de banlieue comme ça. C'était assez pathétique, et on va voir ce que c'est devenu quatre années plus tard, après le passage le mandat d'Obama de ces 4 années. Qu'est-ce que c'est devenu, cette histoire immobilière? C'est l'essentiel de notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Marie de l'Eure en Haute-Normandie. Je voudrais répondre à l'auditeur qui pense que les céréaliers se font des couilles en or parce que le prix du blé et des aides-PAC sont élevés. Alors moi, je voulais lui répondre que je suis moi-même agricultrice céréalière en système conventionnel. Je tiens à préciser à cet auditeur que si le blé varie, il peut peut-être se pencher sur le marché du blé et approfondir pourquoi le blé est arrivé à ce tarif. Je rappelle que le marché du blé est un marché très spéculatif, c'est aussi un marché mondial, donc nous ne sommes pas les seuls acteurs sur ce terrain, je dirais même qu'on est carrément au bout de chaîne, et qu'il y a eu des pressions spéculatives dues notamment à un temps sec et chaud en Russie, qui a menacé la récolte, ainsi que des craintes de perte de rendement en maïs aux États-Unis, donc ce qui a fait effectivement grimper le blé. Je peux aussi lui confirmer que si le blé augmente, eh bien, tout le reste augmente, c'est-à-dire le fioul, les intrants, même si effectivement on en met de moins en moins, eh bien, ils sont de plus en plus chers. La main-d'œuvre augmente également, malheureusement. Ou heureusement en tout cas, pour qu'on puisse se rémunérer. D'autre part, nous les agriculteurs, nous préférerions de loin être rémunérés au juste prix, c'est-à-dire à la valeur juste de notre travail, ce qui n'a pas été le cas durant des années. Et on était quand même bien content, il faut le reconnaître, de toucher des aides-PAC. Je tiens aussi à préciser que s'il n'y avait pas eu des aides-PAC pendant un certain temps, je pense que la ferme France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et que nos rayons de supermarché ne ressembleraient pas du tout à ça non plus. Quant aux agriculteurs qui vont investir en Roumanie, c'est une extrême minorité, extrême, et qu'on ne peut absolument pas généraliser sur ces quelques personnes qui vont investir en Roumanie. Voilà, merci, au revoir.
Oui, salut Daniel, salut aux AMG, Stéphane de Terrenonne dans l'Oise. Donc là, je suis en train de suivre une émission de télévision sur le service public. Et il y a notamment Laurence Parisot qui est invitée. Et Yves Cadvi lui a posé la question, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de l'usine de Provins dans les Ardennes? Donc c'est Electrolux, hein, donc je précise, hein, donc qui est une usine étrangère. Alors elle dit, vous savez, les étrangers, qu'ils soient allemands, américains, etc., n'ont surtout pas envie d'investir en France. Voilà, donc ils n'ont pas envie d'investir en France. Mais elle rajoute à côté, cela dit, je ne connais pas le cas de figure de l'usine de Provins. Donc, excusez-moi, mais c'est quand même assez politico-politicien cette affaire. Hein. Si elle ne connaît pas le cas de figure, eh ben, qu'elle se mêle de ses affaires, Madame Laurence Parisot. Voilà. Et en plus, Provins, c'est une usine qui est rentable. Donc voilà, la plupart des usines qui ont fermé en France, qui étaient enfin, des entreprises étrangères, on prend les Conti, on prend tout ça, c'est des usines qui étaient rentables, alors qu'on arrête de se foutre de notre gueule.
Ouais, bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission sur les États-Unis. Oh, t'es pas très sympa, parce que tu oublies que les Américains nous ont sauvés trois fois quand même, hein, en 14-18, en 39-45, et puis en 2011 au Sofitel de New York.
Every time we go to work, we're afraid it's going to be our last day.
Chaque jour, quand on va au boulot, on a la pétoche, on a peur de se dire que ça risque d'être le dernier jour.
But you know what? The more they attack us, the more the stronger we become.
Mais vous savez quoi? Plus ils nous attaquent, et plus ça nous renforcera.
Callister, cet avocat, c'est un personnage ici à Las Vegas incroyable. Et là, voilà sa voiture. C'est une sorte de grosse Jeep avec sa gueule sur la portière. Fight back! Il faut faire un téléphone, 333-333-334, pour appeler l'avocat qui vient à votre secours, quoi.
Contre-attaquer.
C'est quand même un peu les pompiers et les bénéficiaires de la crise et du malheur des autres, quoi, quand même, hein. Entre un avocat et un vautour, il n'y a pas toujours une grande différence, même si là, c'est pas du tout le cas.
Bien sûr.
Africa, will you on safari? The elephants are afraid.
Si on prend ça pour aller dans un safari en Afrique avec sa photo dessus, les éléphants en repère.
Yeah. Las Vegas, sur le Strip. On peut pas se tromper, il n'y a qu'une avenue. Donc on est soit dans un sens, soit dans l'autre.
Old Vegas.
Là, on est toujours dans le vieux Vegas avec la chapelle d'Elvis Presley pour pouvoir se marier.
Le fantôme d'Elvis qui s'efface peu à peu, recopié sur Internet, hein, de copie en copie.
Ça, c'est une des nouvelles tours aussi qui ne s'est pas vendue. Et le plus gros échec, c'est le Fontainebleau. C'est l'immeuble qui est à gauche, là. Ils ont été à court d'argent, le Fontainebleau, et ils n'ont pas pu finir de le construire. C'était prévu d'avoir 3000 chambres. Donc les constructeurs ont fait banqueroute et on voit là le chantier est à l'arrêt complet. Et pendant ce temps-là, on voit les touristes en short et en tongs qui défilent. Et là, on voit Prada, Louis Vuitton.
Harley Davidson Coffee. Là, pour une fois, la moto de là-bas, si j'y suis, qui est tellement critiquée depuis 20 ans, va être justifiée.
C'est une moto géante Harley Davidson qui sort du mur de l'immeuble.
Énorme, énorme.
Et il écrit le best barbecue in Las Vegas.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vauctil sur notre moto à Las Vegas. Amérique qui flippe, Amérique qui flop. On est avec Monsieur Callister, qui connaît bien la ville intimement en tant que personnage politique et maintenant avocat, qui va nous donner une explication de la situation de l'immobilier ici à Las Vegas. Et c'est un démocrate qui va parler, qui a soutenu Obama il y a 4 ans et qui semble assez déçu. Alors il y a un tableau devant nous, il a un feutre, et il va nous expliquer ce que c'est que TARP, T-A-R-P.
Troubled Asset Recovery Program.
Le programme pour éponger les avoirs problématiques.
Started in, I think, 08.
C'est un programme qui a été lancé en 2008.
Roughly $800 billion to Wall Street.
Le résultat, ça a été de donner à peu près $800 milliards aux banques, au Wall Street.
And then I'm certain that at the last minute, some low-level staffer said, hey, shit, we better throw some money in for Main Street.
Et je suis à peu près certain qu'au dernier moment, à la dernière minute, un scribouillard de bas étage s'est dit peut-être les gars qu'il faudrait aussi penser et donner un peu d'argent aussi, quelques miettes à Main Street, c'est-à-dire à Monsieur Tout-le-Monde et pas simplement à Wall Street.
From Main Street.
Ça doit être dur d'expulser les gens.
To Wall Street.
Alors,
oui, c'est vrai.
Well, that's business.
Yes.
C'est un business.
Harsh, but yeah.
C'est dur, mais c'est comme ça.
The mother who had the child,
maintenant, ce qu'on voit, c'est des enfants de 40 à 50 ans qui retournent chez leur mère parce qu'ils n'ont plus où loger. Parce qu'ils se sont fait chasser de chez eux.
Première instruction que nous donne le shérif avant d'aller partir faire la tournée d'expulsion des mauvais payeurs, se vaporiser de ce produit anti-poux. Parce qu'on va chez des gens pauvres.
You are being asked to leave the premises. If you do not leave, an eviction action may be initiated against you.
Voilà, on vous demande de quitter les lieux, et si vous ne vivez pas, on va alors avoir une mesure d'expulsion.
Environ 1 million par an depuis 2006-2007 trouvent ce mot sur leur porte, expulsion. Ouais, au total environ 10 millions d'Américains ont subi la bulle immobilière et son éclatement. C'est quand même assez énorme. On sait que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Obama et son administration se sont empressés de renflouer les banques. On vient de le dire, Matthew Callister, avocat à Las Vegas, vient de nous le dire. Mais alors, et les autres, les 10 millions, qu'est-ce qu'on fait? Faudrait peut-être leur donner quelque chose. C'était Main Street, c'est-à-dire la base. Alors, qu'est-ce que c'est devenu depuis 4 ans? C'est ce qu'on va essayer de savoir. On va d'abord revenir en arrière. On va revenir à Cleveland, il y a 4 ans, une expulsion. Mais avec une phrase en tête, une phrase prononcée justement par cet avocat de Las Vegas, Matthew Callister. Les banques nous ont mis dans la merde et aujourd'hui, on a besoin des banques pour sortir de la merde.
Voilà, le serrurier est arrivé, les déménageurs sont arrivés, notre ami Jim Wells de la société leader BT Eviction est arrivé pour faire les expulsions, on n'attend plus que le broker. Lui, c'est le serrurier.
Alors ça vous au moins, ça vous donne du boulot, tout ça, le serrurier.
Non.
Sometimes it's fun, sometimes it bothers you. You know,
ouais, des fois c'est drôle, et puis des fois c'est vraiment peinant parce qu'il y a des gamins, il y a toutes les familles aussi.
Ouais.
Un petit cadeau qui est là, jouet d'enfant. Une tongue, des baskets, regarde, tout est respecté. Regarde, il y a encore de la vaisselle dans l'évier.
Là, vraiment, les gens sont partis en laissant tout dans l'évier. Hein.
Ouais.
La bière, le beurre, la grenadine.
All right.
Everything's clear now?
Yeah.
Bon, tout a été vérifié. La maison est vide. Là, c'est le courrier qui est arrivé et il y a un papier qui était là. Last chance. Dernière chance pour récupérer votre maison avant qu'elle ne passe devant les ventes aux enchères du bureau du shérif le 12 mai 2008. Vous devez nous donner des nouvelles avant le 8 mai ou nous n'aurons plus temps de stopper cette vente. Manifestez-vous, sinon votre maison sera vendue aux enchères. La lettre est restée là dans la cuisine en vrac.
C'était donc il y a 4 ans à Cleveland, dans l'Ohio. Cleveland, vous vous souvenez, vous le savez, c'est une ville particulièrement affectés par la crise, par la désindustrialisation. On avait vu là-bas, il y a 4 ans, vous vous souvenez peut-être, des gens enthousiastes de la candidature d'Obama, surtout ce qu'on appelle les Afro-Américains, et qui, pour qui c'était vraiment un espoir. Vous vous souvenez de l'Obamania ? Le mot a presque disparu du langage, Obamania. On l'espérait beaucoup, beaucoup. C'était vraiment le sauveur. Il y avait un côté évidemment délirant. En aucun cas, un seul homme n'aurait pu faire quoi que ce soit. Enfin, pas tout ce qui était attendu, évidemment. Et puis, il y a cette illusion invraisemblable de penser qu'un homme seul. Là, hier, on avait ce matin des commentaires partout sur l'affrontement, le duel entre deux hommes, comme si chacun de ces hommes-là, l'un ou l'autre, avait autant de pouvoir à lui tout seul. On oublie complètement que derrière ces hommes-là, il y a le mot administration, au moins aux États-Unis, mais il y a tout un système, tout un mécanisme extraordinairement puissant, d'intérêts divers et variés, de traditions, d'obligations, de tout un tas de considérations qui ne sont pas prises en compte, ces considérations. Quand on analyse, il lui a mis un coup, l'autre il a reculé, il lui a dit ça, et l'autre il faisait la tête. C'est invraisemblable de pauvreté politique. Or c'est grave quand même, quand on avance un chiffre comme celui-là, de 10 millions d'Américains qui se sont retrouvés à la rue quand même au cours de ces récentes années, et ça continue. Alors ça va un peu moins mal. Le plus gros de la crise semble passer, c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète. Là, il y a toujours un peu deux versions. Il y a ceux qui nous disent « oui, c'est foutu ». Un chauffeur de taxi nous disait « on leur a enlevé la tétine. on suçait comme ça agréablement des crédits, une illusion, on allait vers le rêve américain. » Ça, c'est ceux qui pensent que c'est vraiment foutu et qu'on se relèvera jamais, ou que le déclin est amorcé. Le thème du déclin américain, c'est chronique. Régulièrement, l'Empire décline. Et puis, il y a ceux qui vous disent « Non, ça va mieux. Oui, ça a été pire. Là, c'est en train de se relever. Ça frémit. Non, indéniablement, ça va mieux. » On a ces deux voix, ces deux commentaires de façon permanente, et il se pourrait bien qu'on soit effectivement dans la situation qui suive les crises, cette sensation de vide. C'est Paul Krugman, l'analyste et l'économiste bien connu, qui dit ça. C'est une sensation de vide, comme ça. C'est peut-être ça, actuellement, l'endroit où nous sommes sur cette planète, quelque chose d'un peu vide, une sensation un peu vide. Donc, nous retrouvons notre avocat, Matthew Callister, qui est un personnage incontournable, comme on dit, lorsqu'on est à Las Vegas. Il est né à Las Vegas, il est mormon, oui, d'une grande famille de mormons de Salt Lake City, où nous irons bientôt. Personnage haut en couleur, comme on dit aussi. Et il fait partie de ces avocats, on le disait en commençant, qui sont, vous voyez, des grandes pubs sur les autoroutes, sur les routes, partout. Avocat, appelez-le, et il va réparer vos torts. Oui, les avocats travaillent comme ça. Il faut les appeler, ils viennent vous sauver, et puis ils vous prennent un pourcentage sur l'argent qu'ils ont réussi à extraire du tribunal, quoi, en fait. Eh bien, Matthew Callister travaille dans ces conditions-là. Lui aussi, c'est un avocat. Sauf que il a été élu à la mairie de Las Vegas, donc il a une bonne connaissance, une connaissance intime de cette ville, et surtout des problèmes immobiliers et de la suite, donc, de cette crise et de ces expulsions.
I'm a native of Las Vegas.
Moi, je suis né, je viens de Las Vegas.
In all of my life, home values had always gone up and up and up.
So my first tout au cours de ma vie, j'ai toujours vu les prix immobiliers augmenter.
But for my first home, it was in the 80s. Back then, it was much more difficult to get the loan.
Et je me souviens, dans les années 80, quand j'ai acheté ma première maison, à l'époque, c'était très difficile d'avoir un prêt.
And a few more years later, I was able to sell that home that I bought for, I think, $129,000.
Et quelques années après, j'ai pu vendre cette maison que j'avais achetée, $129,000, si je me souviens, et j'ai pu la vendre pour $250,000.
So then I go buy the big home.
Donc là, je me suis acheté la grande maison près du terrain de golf.
And that home was probably worth $850,000 and my first wife got it in her divorce.
Et cette maison, la valeur de cette maison était montée à jusqu'à 850 000 dollars. Mais c'est ma première femme qui est partie avec au moment du divorce. Mais le prix de l'immobilier montait toujours.
So, 2007, the banks collapse.
Donc en 2007, les banques s'effondrent.
Fear in the first two or three years between 08, 09 and then 10, 70 or 80% of every home in all of Las Vegas was now underwater, meaning the debt was double what the value was.
Dans les trois premières années de la crise, c'est-à-dire de 2008, 2009, 2010, dans toute la zone de Las Vegas, 70% des maisons, des emprunts, la maison avait perdu plus du double de sa valeur par rapport à l'emprunt que les gens étaient censés rembourser.
So they set aside $75 billion for a program known as HAMP.
Et c'est là où on a mis en place, cette fois-ci, 75 milliards de dollars pour un programme qui s'appelle HAMP.
Housing Affordability Mortgage Plan.
Le plan pour l'accessibilité des prêts hypothécaires.
C'était donc une mesure et un budget visant à limiter les expulsions.
Meant to avoid foreclosures by radically reducing what you monthly paid.
Oui, c'était pour éviter les expulsions en diminuant radicalement les paiements mensuels que devaient faire les personnes endettées.
The real problem with HAMP was there were no sanctions if you didn't make this available. So in other words, every bank took some of that $75 billion.
Alors le problème avec ce programme lancé par Barack Obama pour éviter les expulsions, c'est que les banques comme Bank of America, Wells Fargo, etc., ont pris ces 75 milliards de dollars.
But they simply would not help people through this complex process of getting your modifications.
Mais comme il n'y avait aucune mesure punitive ou restrictive qui les enjoignait d'aider effectivement les prêts, ils n'ont rien fait pour aider les personnes surendettées.
Alors où sont allés les 75 milliards alors ?
In the hands of the banks.
Dans so la poche des banques.
So there was zero motivation for the banks.
Donc il n'y a aucune mesure qui pousserait les banques à ne pas expulser les gens.
En conclusion, il y a 75 milliards de dollars qui ont été détournés par les banques.
Correct.
C'est ça. Plan d'aide HAMP est à ce jour un échec. Plan de sauvetage après plan de sauvetage, les banques s'en sortent toujours. Mais que fait-on des proprios qui ont les banques sur leur dos? Tu peux toujours négocier et croiser les doigts, mais ce sont les banques qui nous ont amenés là. Voici l'histoire de la bulle immobilière. Les prix se sont effondrés et des emprunts ont doublé. Les banques ont prêté à ceux qui ne pouvaient pas payer, puis ont vendu les emprunts à Wall Street et fait fortune. Et quand la bulle a éclaté, la vérité s'est imposée. La plupart des emprunts n'étaient pas viables. Des millions de gens se sont retrouvés au chômage, les prix de l'immobilier se sont effondrés et les gens ne peuvent plus payer leur emprunt pour une maison qui ne vaut plus rien. Tu penses que les banques vont baisser tes échéances pour t'éviter l'expulsion de grosses dépenses? Mais c'est pas leur problème, car ils ont vendu ton emprunt et ne perdent pas un dollar quand tu te retrouves sur le trottoir. Alors que beaucoup risquaient l'expulsion, Obama a pris une décision. Son plan de renégociation devait être la solution. 50 milliards devaient être débloqués pour permettre aux banquiers de se relaxer. C'était pour les inciter à modifier leurs prêts au mieux. Mais cette petite enveloppe n'était pas assez grande pour eux. D'ailleurs, les banques ne sont pas les seules blâmables. La faiblesse du gouvernement est aussi condamnable. Moins d'un million d'emprunts ont été modifiés. C'est moins de 30% de ce que le plan prévoyait. 6 millions de personnes sont en retard de paiement et tous ont besoin d'un refinancement. Tu peux toujours négocier, croiser les doigts, mais ce sont les banques qui nous ont amenés là.
Tragic, terrible mess, and we are not coming to the end of that amount of pain and risk and trauma.
Oui, mais les banques nous ont mis dans la merde et on a besoin des banques pour se sortir de la merde. Ce que vous venez d'entendre, c'est un des innombrables moyens
trouvée par les opposants, par les indignés, par les occupy aux États-Unis pour essayer d'expliquer à tout le monde comment fonctionne, comment a fonctionné et fonctionne toujours cette bulle immobilière. Vous pouvez trouver ça sur le net. Guy en a fait une efficace traduction en regardant plusieurs fois, en écoutant plusieurs fois. Vous comprenez très très bien comment ça a marché. C'est aussi énorme que ça. Alors on dit, attendez, non, quand même. Là, dans ce petit dessin animé, on dit 50 milliards. Notre ami Callister dit 75 milliards. Enfin, c'est quand même énorme et qui serait évaporé dans la nature. Alors, selon Krugman, Paul Krugman, prix Nobel d'économie quand même, lui, il dit, bah oui, oui, c'est bel et bien, c'est parti on ne sait où. Pourquoi est-ce que l'administration Obama n'a pas été quand même plus ferme là-dessus? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient terrifiés, l'administration Obama était terrifiée à l'idée de voir la droite dénoncer le programme comme un cadeau fait à des individus qui ne le méritaient pas, une prime à l'irresponsabilité. Et là, on retrouve les attaques permanentes de Romney qui dit « Oui, vous êtes des assistés, abat les assistés, tout le système d'Obama, c'est un système socialiste. » On trouve le vieux fonds de commerce anti-rouge, vous voyez, anti-communiste, anti-socialiste et anti-Obama aussi qui fabriquerait des assistés, des espèces de cloportes absolument inutiles et qui hypothéqueraient le développement américain. Et ça terrorise les démocrates qui seraient soi-disant des gens de gauche.
Quand j'ai commencé à faire ça il y a 3 ans, les clients typiques, c'était ceux qui venaient d'acheter leur première maison, qui gagnaient moins de 100 000 dollars par an. Et maintenant, mes clients moyens, c'est des avocats, des juges, des docteurs, des gens qui avaient des millions de dollars et qui essayent de garder ce qu'ils ont.
C'est une crise gigantesque qui n'a pas
C'est une crise gigantesque qui dépasse tout et qui n'est pas finie. Et je pense que ça va continuer encore pour un certain temps encore, ces expulsions.
The closeness of the banking community with government in the United States.
La proximité entre les autorités bancaires et le pouvoir politique aux États-Unis. Et quand on n'a qu'à voir, par exemple, l'équipe que Obama a embauchée en 2008, quand il est élu, il a gardé l'équipe financière de l'administration Bush. Et d'où venaient ces gars? Ils venaient tous de Wall Street.
Vous n'habitez pas aux États-Unis, vous habitez à Wall Street Land.
Yes, yeah. Made it difficult on everybody.
Ils ont rendu la vie très dure pour tout le monde.
Here I am still paying. I think my debt on my house used to be worth 800 fair market value. Now,
moi, je crois que ma maison, si je me souviens bien, à la prix du marché, elle valait 800 000 dollars.
Maybe 200,000.
Maintenant, elle vaut probablement 200 000 à la valeur du marché actuel.
$500,000.
Et moi, je dois encore en emprunt hypothécaire 500 000 dollars.
So I'm still paying that every month because I don't want to move.
Et je paye toujours. C'est moi qui ai construit cette putain de maison. J'ai mis beaucoup d'argent et donc je continue à payer pour ne pas en être chassé.
Pour ceux qui ont acheté au pic du marché dans les années 2000, les montants à rembourser sont extravagants. Parfois, le double de la valeur actuelle. Alors certains propriétaires choisissent l'option radicale, abandonner la maison et les dettes qui vont avec.
Great, thank you so much.
Des maisons comme ça, Debbie n'arrête pas d'en vendre. Cette belle maison est affichée à 330 000 euros, moitié moins qu'il y a 4 ans. Les propriétaires sont partis un beau jour et ont laissé la banque saisir la maison, malgré une vue imprenable sur Las Vegas. Le message de Debbie, en tout cas, est clair. Si vous voulez investir dans l'immobilier, venez à Las Vegas. Beaucoup de maisons vides et des prix imbattables.
C'est bon, OK.
Pas mal la voiture.
Ça coûte moins cher qu'en France les voitures. Ouf. Alors vous aussi c'est assez intense. Ouais.
Ah oui.
Et vous, vous arrivez de Tahiti, là?
Donc, ouais, j'arrive de Tahiti. J'étais là-bas pour 4 jours, en fait, pour rencontrer des clients. Vous savez, je traite donc avec les investisseurs francophones du monde. Donc, la France, Belgique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, c'est mes 4 marchés principaux. Et puis, je commence un petit peu le marché suisse où j'ai 3-4 clients qui arrivent.
Pourquoi faire pour acheter?
Voilà, pour acheter des investissements immobiliers locatifs. À Las Vegas, nous sommes actuellement à 800 euros du mètre carré. Ah. Donc, il y a une baisse suite à la crise des subprimes, une baisse très importante, à peu près de 60% sur Las Vegas. Donc, imaginez un peu votre bien immobilier sur la région, je sais pas, parisienne, moins 60%, ça change la donne. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. C'est la raison pour
Le marché qui s'est effondré.
Le marché s'est effondré, effectivement. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont investi, souvent à crédit. Et donc, eux, leurs prix se sont effondrés comme tout le monde. Et donc, ont perdu de l'argent. Tous les gens
Des expulsions aussi massives.
Ah bah, c'est très important. Las Vegas, ça a été l'une des deux villes les plus sinistrées.
Les plus sinistrées. Hein.
C'est vrai qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison et qui sont maintenant nos locataires. Donc, si vous voulez...
Ah, ils sont vos locataires?
Oui.
Ah,
il faut bien comprendre la stratégie, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, nous, on rachète donc aux gens qui se sont fait expulser. Et donc, ces gens-là doivent bien habiter quelque part. Ils n'ont plus les moyens de payer un crédit à 2 500 $ ou 3 000 $ parce qu'avec les subprimes, ça montait tous les ans. Mais par contre, ils ont les moyens de louer nos biens à 1 000 $. Donc, c'est là la stratégie. C'est que pendant 7 ans, ils louent nos biens. Dans 7 ans, il va y avoir un retour massif de personnes qui vont avoir de nouveau accès au crédit, qui vont de nouveau racheter. La loi de l'offre et la demande va s'appliquer à nouveau. Les prix vont remonter. Et nous, ça va être le moment de revendre à nouveau à ces gens qui étaient nos locataires, mais maintenant qui vont racheter.
Avec une plus-value conséquente, on espère.
Voilà, exactement. Avec une plus-value conséquente. Bon, il y a une concurrence énorme à Las Vegas. On n'est pas les seuls à se replacer. Il y a même les fonds de pension qui arrivent avec les poches pleines et qui, eux, on va dire, achètent un petit peu à n'importe quel prix, vu que c'est pas cher.
C'est-à-dire que tous ceux qui se sont fait éjecter de chez eux, ça fait des maisons vides, et donc ça fait des prix très bas. Et donc tous ceux qui ont un peu de capital, pour eux, ça fait des opportunités d'investissement formidables.
Exactement, exactement. Aujourd'hui, vous investissez dans l'immobilier locatif à Las Vegas, vous allez être à peu près à 7% de retour sur investissement net. On est en flux tendu, c'est-à-dire qu'une maison arrive, elle est vendue dans les 4 à 5 jours qui suivent. Donc ici, comme on dit, cash is king, hein. Donc tout s'achète cash.
Cash est roi.
Le cash est roi, exactement. Voilà. Donc il y a à peu près 55-57% des transactions qui se font cash. Donc environ 200 millions de dollars dans le résidentiel en cash mensuel à Las Vegas. Donc c'est énorme. Ça s'est jamais vu autant de cash dans l'immobilier aux États-Unis.
Et avec la crise, vous avez vu une augmentation des clients?
It's gone up a lot.
Oui, ça a beaucoup augmenté.
Donc la crise, c'est bon pour vous?
Unfortunately, yes.
Malheureusement, oui.
Our country is burning, you know?
Notre pays est vraiment en feu. Notre pays est en flamme.
Donc moi, ça fait 5 ans que je suis à Las Vegas et ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis agent immobilier et ça fait 1 an où j'ai ma propre agence, je travaille donc 100% pour moi.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans l'Amérique?
Bah écoutez, les États-Unis, moi, pourquoi je suis ici avant tout, c'est l'esprit entrepreneur.
L'esprit entrepreneur.
Ouais, ça, c'est numéro 1 ici. C'est vrai qu'on a le droit aujourd'hui de pouvoir entreprendre, de pouvoir essayer sans être jugé, sans avoir de bâton dans les roues dès le lendemain. Donc ça, par rapport à la France, voilà, on peut commencer des business avec peu d'argent. Et puis, c'est surtout les impôts. C'est vrai qu'ici, on nous encourage.
Il y a les charges, quoi, en France.
Voilà, il y a les charges. Voilà. Ici, par exemple, le gros problème de la France actuelle, comme tout le monde le connaît, hein, c'est qu'aujourd'hui, plus aucun patron n'embauche parce qu'après, on ne peut plus débaucher.
Oui.
Et donc, ça, c'est vrai que...
Il faut la flexibilité. Quoi,
sans flexibilité, c'est impossible de gérer. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est comme ça, c'est l'économie, c'est le business. Il y a des hausses, il y a des baisses. Et donc, aux États-Unis, c'est le gros avantage, c'est que on peut embaucher comme débaucher très rapidement sans se retrouver au prud'homme. C'est la flexibilité qui fait qu'on peut être très réactif. Comme on dit des fois, en France, on a l'impression d'investir pour l'État. Ici, on investit pour nous. La prise de risque, elle doit se payer. Qui dit entrepreneur dit part de risque, dit que si ça passe, il faut que ça paye un petit peu quand même.
Well, my name is Mitt Romney, I'm a robot. Your vote is all that I want. Says whatever it needs to. I'm programmed to flippity flop. With a flip flip and a flop flop and a flip flop. With a flip flop and a flippery do. Be careful you don't push my buttons. I may strap you to my car roof.
Hop. On remet en pâtisserie. Voilà la première maison.
Très bien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à nouveau de repartir dans une bulle spéculative avec cette affaire? Parce que tout s'est effondré et maintenant il y a des gens malins comme vous qui se payent sur la bête, quoi, qui en profitent pour spéculer. Alors, est-ce que c'est pas un risque de faire une nouvelle bulle cette fois-ci sur les maisons dont les gens ont été expulsés?
Effectivement, c'est ce qui va se passer, c'est l'immobilier. C'est pour ça que je suis dans l'immobilier, parce que ça, l'histoire se répète toujours.
C'est l'histoire sans fin.
C'est l'histoire sans fin.
Faut sortir au bon moment, c'est comme au casino.
Exact. Non, c'est pas du tout comme au casino.
Ah bon.
Ici, on parle pas de chance, on parle d'économie, on parle de stratégie. Je veux dire, l'immobilier, c'est connu depuis toujours. Il y a des hausses, quand c'est trop cher, il faut des corrections. Sauf que là, il y a une hausse spéculative, donc il y a une correction spéculative à la baisse.
Mais c'est vrai que c'est marrant de voir les bureaux qui sont au bord de la route. C'est refinancement d'emprunt, banqueroute, Frank Sorrentino bankruptcy, assistance juridique pour les faillites personnelles. Tout tourne autour quand même, c'est toute une économie qui tourne justement autour de du crash de l'économie.
Absolument, absolument. Il y a un vrai business. Nous aujourd'hui, moi je cartonne bien. Pourquoi ? Parce que voilà, les prix ils sont pas chers et donc on fait des plus-values en peu de temps. Si jamais on était resté au prix de 2006, je ferais pas ce business-là. Donc voilà, après c'est une histoire d'opportunité. Hein. Sauf que voilà, tout a une fin. Comme moi, mon business va avoir une fin quand tu n'auras plus de saisie. Et c'est comme ça. Je veux dire, malheureusement, quelque part, c'est la réalité. Hein. Les riches s'enrichissent lors de corrections immobilières ou de crises. Je veux dire, je suis bien placé pour le voir. Maintenant, le monde est global. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus peur aujourd'hui d'investir à Las Vegas avec mon équipe et moi. Et pourquoi pas dans le futur, s'il y a une autre correction donc en France, je pourrais peut-être faire l'inverse ou avec des investisseurs américains. Investir en France, pourquoi pas?
Mais si je traduis ce que vous venez de dire, les riches s'enrichissent quand il y a des corrections du marché, ça veut dire les riches s'enrichissent quand les pauvres s'appauvrissent.
C'est la réalité, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi ni vous qui l'inventons, hein. C'est la réalité de l'économie aujourd'hui.
Autant le savoir et être placé au bon moment quand ça se passe, c'est ça?
Voilà, et écoutez, si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, en tout cas c'est comme ça que je les vois. Voilà, donc là on arrive à la copropriété.
Opulence.
Donc, opulence, effectivement, c'est un nom, c'est un nom intéressant.
Opulence condos, opulence condominium. Ah, c'est mignon là, c'est plus fleuri, c'est vert, il y a des pelouses.
C'est une copropriété, effectivement.
Et là on est rentré facilement, mais n'importe qui n'entre pas ici. Il faut avoir la carte, il faut avoir la télécommande.
Il faut être résident de la copropriété pour l'avoir.
C'est
oui.
Gated community.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Ok.
Ah, c'est vraiment, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas un mégot de pain, c'est propre.
Ah. Donc là, nous rentrons dans le clubhouse de la copropriété. Donc voilà, c'est un clubhouse qui est donc ouvert à tous les résidents de la copropriété.
Ah, voilà. C'est marrant parce que t'as la cheminée avec le faux feu, t'as les fausses plantes, les fausses fleurs, mais tout est nickel.
Il y a une petite ambiance pompe funèbre quand même, hein.
Donc voilà, une saisie bancaire. Ouais. Donc ça, c'est l'appartement que nous avons acheté pour 79 000 dollars. Dans cet état-là, c'est pas en bon état, c'est pas en mauvais état, ça serait passable. Mais bon, on refait en parquet, comme ça sera fait une bonne fois pour toutes, jusqu'à la revente future dans 7-8 ans. Donc voilà, là, donc, nous sommes dans le salon. Voilà, c'est pas désagréable comme vue.
Ouais.
Et puis, il y a les deux chambres dans la deuxième partie de l'appartement. Vous voyez, il y a deux piscines, vous descendez, vous avez accès donc à la piscine là-bas. Et puis il y en a une deuxième sur la droite, là-bas, un petit peu après.
Bon, mais en tout cas, pour vous, Loïc, ça a marché, l'installation aux États-Unis, l'histoire à l'américaine, success story.
Oui, vous, c'est la success story, c'est le rêve américain du petit français.
Absolument. Il faut rajouter que ça se mérite, parce que je travaille 6 jours sur 7, 12 heures par jour, et donc rien n'est gagné. Il faut aller au charbon pour que les retours soient là.
Nous, là, notre truc, c'est les élections. Et qu'est-ce que ça change pour vous, si c'est l'un ou si c'est l'autre, si c'est Obama ou si c'est...
C'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tous les businessmen, les entrepreneurs préféreraient clairement que ça soit Mitt Romney qui passe aux élections en novembre, parce qu'effectivement, Mitt Romney, c'est un républicain. Tout se mérite par le travail. L'aide du gouvernement, parce que vous n'avez pas de travail, certes, ça doit faire partie de tout ça, mais justement, il incitera plus les investisseurs, plus les entrepreneurs à créer de nouveaux, en les incitant notamment fiscalement ou en faisant des choses plus profonde que Barack Obama, qui lui est là pour aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens. C'est important, c'est là, mais si vous voulez, l'assistanat, on le voit en France, ça ne marche pas, et donc c'est le résultat qui compte. Et donc si on parle de résultat, je pense que Mitt Romney devrait être élu.
Et vous allez prendre la nationalité américaine un de ces jours ou pas?
C'est prévu, il faut un peu de temps, hein. Vous savez, ici on n'est pas assisté et tout se mérite, encore une fois, hein.
Spot de campagne anti-Romney.
Mitt Romney devant la rédaction du Las Vegas Review, 18 octobre 2011.
Pour ce qui est du marché de l'immobilier et de ce qu'il faut faire pour le relancer, je crois d'abord qu'il ne faut surtout pas empêcher les expulsions en cours. Il faut laisser le processus aller jusqu'au bout, laisser le marché toucher le fond pour permettre ensuite aux investisseurs de les acheter, pour faire des travaux et y mettre des locataires.
Ne pas empêcher les expulsions, Mitt Romney n'a jamais eu peur de perdre sa maison. Il en a au moins 4. Expulsé Romney.com.
Voilà, des innombrables messages, pubs, qui passent sur toutes les télévisions aux États-Unis, mais surtout dans les swing states, c'est-à-dire ces États qui sont décisifs pour les élections. Cette fabrication permanente de messages qui dissuadent et qui calomnient l'adversaire, c'est une véritable industrie. Tout est autorisé, y compris des informations absolument fausses. Vous avez le droit de dire n'importe quoi sur votre adversaire pour le disqualifié. Ainsi marchent les élections américaines. Ça date pas d'hier. On retrouve notre avocat à Las Vegas, Matthew Callister. Que pense-t-il de tout ça?
Monsieur Callister, avec tout ça, vous nous avez dit « Bonjour, moi je suis un vrai démocrate, pur sucre. Vous allez voter pour Obama à nouveau ?»
Of course.
Bien sûr.
What are my options?
Quelles sont mes options, de toute façon?
C'est ça, parce que vous n'avez pas le choix.
I'm not going to vote for somebody that takes instructions from God.
Je ne vais pas voter pour quelqu'un qui reçoit ses instructions de Dieu.
They threw my ass out of the LDS church years ago.
J'ai été élevé comme un mormon.
They excommunicated me 20-30 years.
Mais j'ai été excommunié il y a 30 ans de ça.
I received a phone call last week.
J'ai reçu un coup de fil la semaine dernière.
A gentleman here named Lewis Callister. He's my uncle.
Mon oncle Lou.
He's a lifelong Republican.
C'est un républicain depuis toujours.
He grew up knowing Romney and his family.
Il a grandi en connaissant la famille Romney.
And Lou called me to tell me that I, as the Democrat in the family, because everybody else is Republican.
Moi, en tant
que my 5 brothers and sisters, and their 50 grandkids, not to vote for Romney. I couldn't believe it. I said.
Et donc voilà que mon oncle Lou m'a appelé moi la semaine dernière parce qu'il savait que j'étais le seul démocrate de toute la famille de Mormons pour me dire, moi, de passer la consigne à mes oncles, mes tantes et mes cousins et mes cousines qui sont tous républicains de ne pas voter pour Mitt Romney.
I said, well, why, Lou? Donc, you're the most conservative guy I know. You're Mormon. Why in God's name?
Et donc je dis à Lou, mon oncle, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es le plus parfait conservateur que je connaisse, t'as toujours été à droite, t'es le plus mormon que je connaisse, comment ça se fait que toi, tu me fasses passer le message de dire à tous mes cousins et cousines de ne pas voter Mitt Romney?
His answer is because he's an empty suit.
Et sa réponse était que c'est une coquille vide, ce Romney.
Nothing here.
Il n'y a rien à l'intérieur.
He will do whatever big business tells
me. Parce qu'il fera tout ce que le big business lui dira de faire.
Votre famille, vos oncles républicains, les mormons, vous disent de ne pas voter républicain. Parce que Romney, c'est une coquille vide qui ne saura pas résister. Mais vous venez de nous raconter une histoire où Obama n'a pas résisté au big business.
puisque les banques ont détourné 75 milliards de dollars sans aucun problème. Il n'a pas non plus résisté au big business.
I don't personally believe there's much difference between Democrats and Republicans anymore.
Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une vraie différence entre les démocrates et républicains aujourd'hui. On vit dans un corporate world, c'est-à-dire dans un monde de l'entreprise, dans un monde des multinationales.
I don't have a good choice.
Mais j'ai pas beaucoup de choix.
But I do know this. I do know this, that the only presidents that ever accomplish anything have to have a second term.
Mais les seuls présidents qui ont jamais réalisé quelque chose aux États-Unis ont dû faire un deuxième mandat.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Une question qui n'a rien à voir, c'est sur le financement des candidats. Le PAC et le Super PAC.
C'est la décision la plus stupide que la Cour suprême ait jamais prise.
Anybody can contribute unlimited amount of money. So,
parce que maintenant, n'importe qui peut contribuer sans limite à financer une campagne.
From here to the Sands and whatever is the Adelson property. He's already publicly invested 20 million in a failed attempt.
Par exemple, now, on peut faire un mile d'ici et d'aller au Sands, qui est le QG du milliardaire Sheldon Adelson, qui a déjà investi 20 millions de dollars dans la candidature des primaires de Newt Gingrich.
You know, he's publicly spent that kind of money. He's like the fourth wealthiest man in the world.
C'est le quatrième homme le plus riche au monde.
That should tell you everything you need to know about how you make your presidential choice.
Ça devrait permettre à chacun de conclure comment on fait son choix de président.
The problem is the super PAC limitations have been removed now.
Donc il n'y a plus aucune limitation à ces super PAC, c'est-à-dire à ces fonds de financement de campagne.
The capacity for the super wealthy has been enlarged beyond belief.
Donc les limites qui contraignaient les super riches ont été complètement levés. Il n'y a plus aucune limite à leur intervention dans le jeu politique. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est plus en train d'élire les officiels, on les achète.
I would consider that change in the law to be perhaps the single most risky change in American political law in my lifetime.
Et je suis à peu près certain que ce changement dans la loi électorale est le changement politique le plus fondamental qui soit arrivé dans la scène américaine depuis que je suis né.
Quelle est la contrepartie? Quand Sheldon Adelson, quatrième homme le plus riche du monde, balance je ne sais pas quoi, 10 ou 20 ou 100 millions de dollars sur l'un ou l'autre de ses poulains, c'est-à-dire Gingrich maintenant, c'est Romney, quelles sont les faveurs qu'il va avoir? C'est un investissement, c'est pas un philanthrope. Qu'est-ce qu'il va avoir comme contrepartie? Par exemple au niveau fiscal, par exemple au niveau des lois, par exemple au niveau des autorisations de construire, etc., de s'implanter. Je suppose que ça fonctionne comme ça.
Changes everything.
Oui, ça change absolument tout.
There were strong limitations on how you could contribute.
Parce qu'avant, il y avait des limitations très strictes sur la manière de contribuer aux élections.
When I was running for office, I think,
par exemple, moi, quand je me suis présenté aux élections,
le maximum anyone could contribute was either $1,000 or $2,500. I can't remember.
On ne pouvait pas plus, si je me souviens bien, verser plus de 1 000 à 2 000 dollars à titre individuel.
The way somebody trying to get elected would get around that would somebody would come to you, a lobbyist typically, and say, I'm going to bundle money. And so I remember times when I received 10 checks from 10 employees of a single company.
Mais moi, je me souviens très bien qu'il y avait des compagnies qui allaient voir mon lobbyiste et qui disaient, écoutez, moi, je vais utiliser ma compagnie, je vais faire un don à chacun de mes employés qui, comme par hasard, après, viendront chacun donner un chèque à votre campagne. Et donc, ça m'est déjà arrivé à moi d'avoir 10 chèques qui viennent de 10 salariés de telle société pour soutenir ma campagne.
En échange de ces soutiens, qu'est-ce que vous avez donné? À quoi ça vous obligeait vis-à-vis de vos donateurs?
I had to take a phone call. I had to talk to him.
J'ai dû lui parler. J'ai dû lui apprendre au téléphone. J'étais pas nécessairement d'accord avec lui.
The guy that taught me politics used to say, if you can't look them in their eye, take their money, drink their booze, fuck their women, and still say no, you have no business being in politics.
Celui qui m'a appris la politique, celui qui m'a initié à la politique, me disait, si tu peux pas les regarder dans les yeux et en même temps prendre leur argent, boire leur gnôle, sauter leur femme et dire non malgré tout à ce qu'ils demandent, alors tu n'as rien à faire en politique.
Now it's changed.
Maintenant, ça a changé.
Because the volume of money it takes to get elected has gone up disproportionately.
Parce que le volume d'argent qu'il faut pour être élu a explosé.
They use the term class warfare as though it were a negative thing, but it's a true thing.
Et quand on critique la guerre de classe qui est en place aux États-Unis en disant que mais non, c'est idéologique, mais je pense que c'est une vraie réalité, cette guerre de classe.
Vous pensez un peu comme Warren Buffett. Warren Buffett, il dit, il y a une lutte de classe, mais c'est nous, les milliardaires, qui l'avons gagnée.
Yes. Yeah.
Merci Matthew Callister. Merci aussi à Loïc Pillon, ce Français plein d'avenir. Si vous voulez vous acheter quelques maisons dans le Nevada, on vous donnera ces tuyaux. C'était l'Amérique qui flippe et l'Amérique qui floppe. Un reportage avec Guy Van Thiel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Sandrine Laurent et Gilles Gaillard étaient à la technique aujourd'hui. Au montage, Grégory Salomonovitch. C'était L'émission a été réalisée par Lucia Kuhn et Chloé Sanchez, préparée par Pierre-Yves Bulto et Solène Cordier. Attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Maintenant, je suis en ligne, je surfe, je clique et hop, j'ai sur ma santé sans sortir.
Oui, mais pour être en forme, il faut te bouger.
Et surfer, c'est pas du sport, peut-être? À moi, les vagues du Pacifique, aïe, aïe.
Ce garçon m'étonnera toujours. Heureusement, il a la Matmut.
Et son assurance santé en ligne.
Être utile à Paul, cuisinier, c'est lui donner de la visibilité sur ses dépenses d'énergie.
Moi, c'est Paul, et dans mon resto, c'est dur de prévoir. Un soir, j'ai 30 couverts, un soir 50. Heureusement, côté énergie, c'est différent. Avec la nouvelle offre de marché de GDF Suez Énergie France, l'électricité et le gaz naturel sont à prix fixe pendant 3 ans, avec en plus une remise équivalent à 10% sur mes abonnements.
Informations et conditions au 0811 01 3000, appel non surtaxé et sur notre site internet. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Tu sais papa, j'ai appelé le 3025 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Ah, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 3025, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Attention, vendredi dernier, le jackpot Euromillion n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 76 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Inter présente Amour, le nouveau film de Michael Haneke, Palme d'Or Cannes 2012, avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, Isabelle Huppert. Au cinéma le 24 octobre. Georges et Anne sont des professeurs de musique à la retraite. Leur fille vit à l'étranger. Un jour, Anne est victime d'un accident. L'amour qui unit ce couple va être mis à rude épreuve. Retrouvez Amour de Michael Haneke, une histoire d'amour absolue avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques sur France Inter, dans 16h et 30 secondes. On se retrouve demain à 15h pour la base et j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Coup d'éclat de la droite à l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle après avoir été accusés par Jean-Marc Ayrault de vouloir l'échec de la France. L'incident s'est produit alors que le Premier ministre répondait à une question du socialiste Philippe Martin sur la compétitivité. Jean-François Copé, le secrétaire national de l'UMP, s'est déclaré insulté. À propos de compétitivité, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, a lui expliqué aujourd'hui que les mesures que prendra le gouvernement pour relancer la compétitivité en France n'entraîneront pas de pression supplémentaire sur le pouvoir d'achat. Le patron de Bercy écarte donc implicitement toute hausse de la TVA et de la CSG. Les négociations sur l'encadrement des dépassements d'honoraires des médecins sont loin d'être terminées après l'annonce de leur échec en début d'après-midi. Assurance maladie, complémentaire santé et syndicats de médecins libéraux sont revenus à la table des négociations à la demande du gouvernement. Plusieurs milliers de fonctionnaires ont défilé aujourd'hui à Paris dans le cadre d'une journée d'action à l'appel de la CGT. Enjeu les salaires, l'emploi. Ils ont aussi dénoncé la journée de carence instituée en cas de maladie, donc pour les fonctionnaires. Le bombardement d'une boulangerie à Alep en Syrie a fait au moins 20 morts aujourd'hui. Des femmes et des enfants font partie des victimes. Ce sont les forces gouvernementales qui ont bombardé l'enseigne. Par ailleurs, un obus syrien s'est lui abattu aujourd'hui sur un dispensaire du sud de la Turquie. Il n'y a pas eu de victime. L'établissement se trouve à environ 200 mètres de la frontière syrienne. Deux jeunes hommes armés ont pénétré ce matin dans un lycée des quartiers nord de Marseille. Ils avaient sur eux un couteau et un revolver à barillet. Ils s'en sont pris à un élève avant de se faire refouler par l'équipe de l'établissement. Le personnel a depuis fait valoir son droit de retrait. Pardon. On l'apprend aujourd'hui, des tags nazis ont été ce week-end. Je vais y arriver. Merci. Alors c'est comme ça, je prends une bouteille d'eau et je prends... Et je vais ça pouvoir arriver, continuer, voilà. On l'apprend aujourd'hui, des tags nazis ont été peints ce week-end sur la maison d'un chercheur de l'INRA d'origine algérienne à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme. La famille était installée depuis une trentaine d'années. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les résultats de l'enquête administrative, cette fois sur la mort d'un nouveau-né après un accouchement sur l'autoroute dans le Lot, seront connus à la fin de la semaine. Le débat sur la fermeture des maternités en milieu rural a été relancé ce week-end après qu'une femme de 35 ans a perdu son bébé alors qu'elle se rendait en voiture à la maternité de Brive en Corrèze, soit à plus d'une heure de son domicile. Enfin, un ancien joueur de hand de Montpellier et la campagne de Luka Karabatic ont fait appel aujourd'hui de leur contrôle judiciaire. La cour d'appel de Montpellier rendra sa décision jeudi. Mladen Bojinovic, qui joue maintenant au PSG, et Jennifer Priest sont poursuivis dans l'affaire de soupçons de match truqué sur fond de Paris sportif. J'y arrive, 16h03.
Héroïque, héroïque.
Cette semaine dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit... C'est la soupe. Lucas Santana.
Eu posso até chegar quebrado, o paladino e seu cavalo altar.
Et Cody Chesnut.
Come let us build a bridge out of the greatness we have.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter présente Ellipse, 39e création du Cirque National Alexis Grus à partir du 20 octobre à Paris. Sur la piste, 30 artistes accompagnés de la célèbre cavalerie d'Alexis Grus et de son orchestre rendent hommage au 7e art dans un décor magique. Un show surprenant pour les amoureux du cirque et du cinéma. Ellipse, le nouveau spectacle du Cirque National Alexis Grus, à partir du 20 octobre, Porte de Passy, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Quand j'entends ça...
Mais c'est pas vrai, ils vont continuer encore longtemps?
Comment?
Oui, non.
On peut dire des choses pareilles.
Oui.
Oui, madame.
Non.
Et vous, vous en pensez quoi?
France Inter, la voix est libre.
Je ne tousse plus, mais presque.
La voix est libre, on vous a dit, Laetitia.
La voix est libre, je m'en vais.
Allez, une bonne pastille, et à 17h.
À 17h, je serai en vie.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, tout à l'heure à 16h30, j'aurai le très grand plaisir de recevoir Chantal Cazot pour un livre qu'elle vient de nous proposer, Giuseppe Verdi, mode d'emploi chez Avant-Scène Opéra, et c'est très utile, vous savez que l'année Verdi arrive, c'est vraiment dès 2013, ce sera aussi l'année Wagner, et on oublie un petit peu l'année Poulenc, mais pour commencer, et puisque l'époque est un petit peu difficile certainement, je crois qu'il est très utile de montrer qu'il y a des concerts gratuit par exemple. Donc à Marseille, chers Marseillais, vous avez la chance d'avoir un festival de musique baroque et classique. C'est la 8e édition. Et vendredi à l'église Saint-Michel, un concert d'exception dirigé par le premier chef invité Fabrizio Maria Carminati avec Christy Gesi, super soliste de l'Orchestre de Marseille, le trompettiste Anthony Abel et les membres de l'Orchestre Philharmonique. Donc beau programme, la 38e symphonie de Mozart, le concerto pour trompette, un concerto de Bach en mi majeur. Bref, beau concert. D'ailleurs, il y a 8 concerts gratuits qui vont se succéder à l'église Saint-Michel à Marseille, avec le conservatoire régional, on dit maintenant un rayonnement régional de Marseille et de l'Opéra de Marseille. Donc c'est le concours de ces deux établissements. Vive Marseille, et je vous propose une pièce qui sera jouée donc lors de ce premier concert vendredi à l'église Saint-Michel. Je mets la barre très haut avec Romain Leleux, qui est victoire de la musique, successeur en quelque sorte ou descendant du regretté Maurice André. Voici donc le rondo final du concerto pour trompette de Joseph Haydn.
Thank you.